Bonjour les joueurs, bonjour les joueuses. C'est BenOFX de retour dans la chronique jeu du mois après une petite absence le mois dernier. Et je suis, comme d'habitude, pas de changement ce mois-ci, accompagné par Cyrus. Bonjour Cyrus.
Bonjour BenOFX.
Bon, j'ai été brillamment remplacé par Fendoel, hein, donc je pense que...
C'est vrai, il a plutôt bien bossé. En plus, il nous a parlé de The Mind, qui était
ouais.
Nommé au Spiel des
Spiel. Voilà. Tout à fait.
Ça tombait plutôt pas mal.
Ouais, j'ai écouté la chronique, du coup. Ça m'a intéressé, ça m'a pas mal intrigué, The Mind. J'ai envie d'essayer ça aussi.
Ouais, moi non plus, j'ai toujours pas essayé. Bon, on va voir ça.
Bon, alors par rapport à cette chronique avec Fendoel, il y a eu des commentaires, du coup ?
Eh ben oui, justement, alors quelques commentaires, pas beaucoup, mais on a eu deux commentaires concernant Clank, pour le coup, donc le jeu que moi j'avais chroniqué. Mmh. Un premier commentaire de Le Pionfesseur, du Pionfesseur. Et oui, c'est un peu méta, puisque c'est un
chroniqueur aussi,
mais
ouais.
Faut pas oublier qu'on est auditeur avant d'être chroniqueur, finalement. Et donc, le Pionfesseur, en fait, m'interrogeait sur le... En fait, il soulignait le fait que je parlais d'un game system dans Clank. Mmh. Et il m'interrogeait sur Eldorado. Il me disait, tu devrais peut-être essayer Eldorado pour... voilà. Effectivement, j'ai jamais pu essayer Eldorado. Il était nommé l'année dernière.
Oui,
si je dis
il
pas
était nommé l'année voilà. dernière, tout à fait.
Donc, du coup, j'avais voulu l'essayer, mais j'avais pas eu l'opportunité. Il y avait une table à PEL, mais elle était prise d'assaut. Et puis, le flot des nouveautés a fait que je l'ai
passé
oublié.
Voilà. Sous le radar.
Voilà. Donc, du coup, effectivement, faudrait que j'essaye ça. Mais je pense que, malgré tout, il doit pas y avoir l'aspect stoppant encore dans Eldorado. Il doit y avoir l'aspect course, effectivement. Voilà. Et puis, Twin. On a enfin eu un commentaire de Twin. C'est la consécration. donc, Twin qui disait que Clank, selon lui, apportait pas mal de fraîcheur dans l'univers du deck building. Il avait un peu marre des deck building avec des tas de cartes à collecter et puis juste des tas de cartes, quoi. Voilà.
Ouais.
Effectivement. Merci à eux pour leurs commentaires.
Ok, et du coup, qu'est-ce qu'on va présenter ce mois-ci de ton côté, Cyrus ?
Alors moi, je vais vous parler de When I Dream, un jeu de Repoprod. Mmh. Et de ton côté ?
Eh bien moi, je vais vous parler de Château Aventure, édité par Yellow. Donc deux jeux qu'on avait pu tester ensemble sur Cannes, en fait.
Et c'est vrai.
Pour lesquels on a pu refaire quelques parties depuis.
Exactement. Eh bien allez, du coup on y va. Allez, je vais démarrer.
C'est parti.
When I Dream. Alors, When I Dream, c'est un jeu de Chris Darsaklis, c'est un auteur grec. Donc, c'est un jeu qui est édité chez Repoprod, qui a été illustré par beaucoup d'illustrateurs. Donc, je me suis permis de passer cette fois-ci sur la vingtaine d'illustrateurs qui a œuvré sur When I Dream. C'est un jeu qui est annoncé pour 4 à 10 joueurs à partir de 8 ans, des parties de 30 minutes. Et c'est un jeu qui est disponible à partir de, enfin, à 26,90€ chez Philibert. Alors, qu'est-ce que c'est When I Dream? C'est un jeu qui est un jeu plutôt, on va dire, de communication, dans lequel les joueurs vont jouer à tour de rôle le rêveur qui est plongé dans son rêve et qui va essayer de décrypter ce qui se passe dans ce rêve, aidé ou pas par les autres joueurs qui sont autour de la table. Donc il y a un côté asymétrique dans le jeu, sauf que cette asymétrie-là, elle va tourner. Hein.
Ouais.
Donc le rêveur va changer au fur et à mesure de la partie. Et en fait, la partie d'ailleurs va s'arrêter lorsque tout le monde aura fait une fois le rêveur. Mais c'est aussi un jeu dans lequel il y a une notion de rôle caché, puisque je disais, en fait, les autres joueurs vont soit aider le rêveur, soit tenter de lui mettre des bâtons dans les roues. Concrètement, si on va un peu plus dans le détail, le rêveur va avoir les yeux bandés. Au milieu de la table, il va y avoir un paquet de cartes illustrées sur lesquelles sont écrits deux mots. En fait, on va jouer avec un seul des mots de la carte. On va cacher l'un des deux. Et donc, le but du rêveur, ça va être de deviner ces mots. Pour ça, donc, il va être aidé par les fées, qui est un des rôles qui va être distribué autour de la table. Donc, les fées vont tenter de l'aider à découvrir ces mots Tandis que les croque-mitaines, qui est donc un deuxième rôle distribué autour de la table, vont tenter de l'envoyer sur des fausses pistes, et donc de faire en sorte qu'il annonce un mauvais mot. Et enfin, il y a un troisième rôle dans ces rôles cachés, c'est le rôle du marchand de sable, voilà, qui va tenter en fait de faire quelque part l'équilibre. Donc le marchand de sable, il va tenter de faire en sorte qu'il y ait autant de bonnes réponses que de mauvaises réponses. Donc là, on sent déjà que le jeu il tend à être équilibré un peu par les joueurs, en particulier via ce marchand de sable. Alors comment on fait deviner les mots? C'est assez simple finalement, c'est le principe de pyramide. Je sais pas si tu te rappelles cette émission télé.
Tout à fait, en trois cubes. Voilà.
Sauf que là, on a le droit à autant de cubes qu'on veut. C'est le temps qui va jouer, puisqu'en fait, on va avoir 2 minutes. Enfin, le rêveur va avoir 2 minutes pour essayer de deviner le plus de mots possible. Évidemment, plus il trouve de mots et plus il va marquer de points, donc il a tout intérêt à essayer d'en trouver le plus possible. Et donc, les autres joueurs vont tour à tour, donc dans l'ordre du tour autour de la table, ils vont donner un indice sous la forme d'un mot, donc qui est censé aider le rêveur à trouver le mot au milieu de la table. Alors je sais pas, si je prends un exemple, par exemple si le mot c'est oreiller, on va pouvoir lui dire dormir, coussin, plume, voilà. Et donc avec ça il est censé trouver le mot oreiller. Évidemment, il va y avoir vous l'avez compris, donc il y a des croque-mitaines autour de la table qui vont tenter de lui tendre des embûches. Donc ils vont peut-être essayer de l'orienter sur d'autres mots. Et c'est là que le jeu devient assez subtil, parce que quand on est autour de la table et qu'il y a ce mot à faire deviner,
en fait, toute la subtilité aussi, c'est que les fées et les croque-mitaines ne se connaissent pas. Et du coup, les croque-mitaines vont devoir essayer de l'orienter sur un mot différent, mais sans être trop différent, sans être trop évident, puisque si quelqu'un va dire un mot qui a absolument rien à voir avec les un ou deux mots qui l'ont précédé, le rêveur va vite identifier cette personne comme un
croque-mitaine,
un fauteur de troubles, comme un croque-mitaine, donc il va plus écouter ses indices. Donc toute la subtilité du croque-mitaine, c'est de le diriger vers un autre mot, mais essayer de rester dans le même champ lexical quand même pour pas éveiller les soupçons du rêveur.
Tout en essayant quand même de pas rester trop proche du champ lexical au risque de finalement aider le rêveur. Et ça, c'est pas très bon pour lui. Parce qu'à la fin, donc, on va répartir les points autour de la table. Il y a bien un système de points. Le rêveur, lui, va marquer autant de points qu'il a trouvé de bonnes réponses. J'expliquerai, il y a une petite subtilité après. Tandis que les fées vont également marquer ce même nombre de points. Les croque-mitaines vont marquer autant de points qu'il y a eu de mauvaises réponses. Donc évidemment, ils ont tout intérêt à faire en sorte que le rêveur ne trouve pas. Et le marchand de sable, lui, va marquer des points. On va dire globalement, si on fait une égalité entre le nombre de bonnes réponses et le nombre de mauvaises réponses.
Ce que t'as pas dit aussi sur les indices que reçoit le rêveur, c'est le rêveur qui décide quand il veut stopper les indices pour essayer d'annoncer le mot.
Effectivement.
Il n'y a pas un nombre de tours limite. En fait, le rêveur, il a 2 minutes pour en deviner le plus possible, mais il peut passer les 2 minutes sur un mot s'il veut être sûr de pas se tromper, quoi.
C'est assez important d'ailleurs ce truc, parce qu'on pourrait se dire finalement avec un seul tour ou deux tours, ça aurait pu être figé, mais le fait que ce ne soit pas figé, c'est assez important stratégiquement. Pour faire tourner autour de la table celui qui démarre, parce que quand on démarre par exemple avec 2 croque-mitaines, on va tout de suite avoir 2 mauvais indices, et finalement les premiers indices ils vont quand même orienter le cerveau.
Pas mal, ouais.
Et c'est pas évident du coup, à partir du moment où on a démarré par exemple avec 2 mauvais indices, de réussir à retomber au final sur le bon truc, quoi.
Et puis faire durer longtemps, en fait, attendre longtemps, c'est pas forcément bien non plus, parce que justement les gens autour de la table ne trouvent plus de mots directement en relation avec le mot à faire deviner, donc ils s'écartent un petit peu et ça devient beaucoup plus compliqué pour le rêveur s'il attend trop longtemps.
Alors on est parti un peu dans les toutes les considérations stratégiques, je vais y revenir, mais ce que je trouve assez intéressant dans ce jeu aussi, c'est tout ce qui est autour. C'est un jeu qui a été édité la première fois par un éditeur grec qui s'appelle Drawlab. Il a été édité pour Essen 2016, et le jeu a été repris par Groupe Production. Du coup, l'auteur, c'est bien l'auteur d'origine, hein, je vous rassure. Les illustrations ne sont pas celles d'origine. Les illustrations d'origine avaient été faites par Vincent Dutré et Christophe Soile. Donc le jeu a été repris par Repos Productions, donc toutes les illustrations ont été refaites. Je sais que Vincent Dutré, je crois, a travaillé.
A participé.
Il y a peut-être quelques cartes qui sont les cartes d'origine, je pourrais pas dire. En tout cas, je me suis renseigné auprès de Repos Productions, parce que ce que j'avais trouvé bizarre dans le jeu, c'est que j'ai eu la sensation qu'il y avait eu une communication un peu à deux vitesses. C'est-à-dire que, ils ont fait une communication, je saurais pas comment dire, mais il y a eu par exemple une vidéo, je sais pas si tu l'avais vu passer, il y a une vidéo de promotion du jeu, où ils ont envoyé le jeu dans la stratosphère. En gros, ils ont accroché un ballon d'hélium avec une caméra et tout, et tu peux retrouver la vidéo sur internet.
Ça me dit quelque chose, ça m'a pas marqué, le jeu qui avait bénéficié de cette promo m'avait pas marqué, je me souvenais plus que c'était One Eye Dream, mais je me souviens du ballon qui partait avec la boîte.
Ils ont fait pas mal d'efforts aussi sur les salons, je sais pas si tu te rappelles, donc à Cannes, il y avait un,
Essen
aussi,
ouais.
Il y avait le lit.
Essen aussi, ouais, avec le lit.
Il y avait des gens en pyjama.
Des animateurs déguisés, ouais.
Avec des pyjamas, des oreillers.
Ils se baladaient avec leurs oreillers.
Sur la tête, à l'effigie du jeu. Oui. Et qu'on retrouvait à Cannes, voilà. Et donc, pas mal d'efforts là-dessus. Et en fait, j'ai eu la sensation, je sais pas toi, mais que la couverture médiatique au niveau des, tout ce qui était blog, site spécialisé, elle était pas à la hauteur de tout ça.
Ouais, je suis d'accord en fait. Moi j'en avais entendu parler un petit peu, mais à Cannes, on y a joué et je savais pas vraiment s'il était sorti ou pas quoi. C'est-à-dire que apparemment il était sorti au moins depuis SN.
Il était sorti à SN.
Et j'avais pas vu passer plus que ça depuis sa sortie de news ou de. Je savais pas s'il était sorti ou pas en fait.
Ça m'intéresserait d'avoir le retour des auditeurs là-dessus, parce que c'est la première fois que vraiment ça me fait cet effet de communication comme ça qui a l'air quand même poussé et finalement d'avoir l'impression de rien recevoir en fait. Je sais pas s'ils ont essayé de se tourner vers un autre public au final. Toujours est-il que, du coup, j'étais quand même intrigué, je me suis dit, est-ce que c'est un succès ce jeu ou pas? c'est con comme question, mais et du coup, je les ai contactés et je leur ai demandé, ils m'ont dit, en fait, le premier tirage, c'était quand même 80 000 exemplaires, donc qui ont été largement écoulés, parce qu'ils en sont
un gros tirage,
quatrième reprint, quand même. Donc cinquième. Enfin,
très gros succès.
Alors, je pense pas qu'il y ait eu 4,
les refaits à 80 000
à chaque fois. Mais vu l'éditeur.
Mais même s'ils partent sur 10 ou 15 000 à chaque fois.
C'est ça. Donc je pense qu'on est quand même. On doit sûrement pas être loin si on n'y est pas déjà des 150 000. Alors j'avais renvoyé un deuxième flux de questions, mais du coup, comme j'ai fait ça un petit peu tard, j'ai pas eu les réponses aux dernières questions. Note du monteur, le jeu se serait vendu à 130 000 exemplaires. Mais ça a été distribué dans 21 pays.
Mmh.
Donc du coup, on comprend aussi que le nombre il est là aussi quoi.
C'est sûr.
Donc c'est un jeu qui marche. Je leur ai demandé si on y reviendra, mais c'est un jeu qui est dans la gamme de concept, c'est-à-dire que c'est vraiment le même packaging, la boîte blanche,
boîte blanche,
le même
taille,
format, etc. Et plutôt le même type de public visé, je pense. Et concept a largement franchi les barrières des magasins hyper spé. Donc il est maintenant dans des Cultura, dans des Fnac, etc. Donc voilà, pour l'instant ils étaient réservés sur le destin de One Eye Dream. Je pense que effectivement ils avaient l'air d'espérer que ça puisse franchir effectivement ses frontières, mais c'était pas encore fait quoi. Ils m'ont dit les joueurs en décident. Donc c'est cette réponse qui veut un peu tout dire en même temps. Mais, Donc bon, ça a l'air d'être plutôt bien parti.
Ok.
Voilà. Donc voilà un petit peu pour ce que je voulais raconter autour de ce jeu. Pour revenir sur des choses un peu plus techniques qui vous intéressent peut-être un peu plus, chers auditeurs. Moi, ce que je trouve assez intéressant dans ce jeu, c'est que ça rappelle plein de trucs. Je sais pas toi, mais en fait, on a l'impression qu'il y a rien de nouveau dans ce jeu. Non.
Ouais. Enfin. Non, je suis d'accord. C'est un subtil mélange de mécaniques qui sont plus ou moins connues, mais c'est bien fait parce que rien que le petit masque que tu mets sur les yeux. Enfin. Mais effectivement, c'est des mécaniques. On a les rôles cachés à la loup-garou. On a faire deviner un mot. Il y a plein de jeux qui utilisent ça. Mais en même temps, ça allie ces mécaniques qui qui n'avaient jamais été vraiment mis ensemble jusqu'alors, quoi.
Ouais, c'est ça. Il y a le côté, ce qui est peut-être un peu plus nouveau, finalement, c'est le côté asymétrie, mais en un contre, pas contre tous pour le coup, enfin c'est pas contre, mais il y a vraiment une asymétrie où c'est de nombre, tu vois. Oui. Il y a seulement une personne qui reçoit et plusieurs personnes qui émettent. Il y a le côté rôle différent aussi dans les émetteurs qui ajoute à ça. Et puis il y a vraiment un côté enfin, le fait qu'il y ait une asymétrie dans les émetteurs, ça fait beaucoup d'asymétrie, hein. Mais je sais pas si vous arrivez à me suivre encore, mais le fait qu'il y ait beaucoup de, enfin, qu'il y ait des rôles différents, en fait, tout simplement, hein, on va le dire comme ça, le fait qu'il y ait des rôles différents, ça ajoute de la subtilité aussi au jeu, en fait. C'est vraiment, comme tu le disais, hein, quand t'es croque-mitaine, il faut vraiment être fin, quoi. Et d'ailleurs, je sais pas toi le recul que t'as sur le jeu. Moi, le peu de parties que j'ai faites, j'en ai fait 6 ou 7 je crois maintenant, on a toujours un sentiment de déséquilibre en faveur des fées, donc qui sont donc les personnages qui doivent aider le rêveur.
Oui.
Dans toutes mes parties, on a constaté que les gens qui avaient été souvent fées finalement gagnaient à la fin. Après, si tu fais un bon tour en plus de rêveur, bon, voilà, ça aide.
Ouais. Ouais, j'ai plutôt constaté ça aussi. C'est vrai que les fées ont tendance à plus facilement gagner. Comme tu redistribues les rôles à chaque tour, effectivement, quelqu'un qui est tout le temps fée va avoir un petit peu plus de chances de gagner que quelqu'un qui est tout le temps croque-mitaine. Mmh. Ça dépend un peu les mots qui sont à deviner, en fait. Quand les mots à deviner sont... Les mots, globalement, sont relativement simples. Enfin, c'est pas des choses très... très 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 tordu en fait au niveau des mots. Ouais. Mais quand il y en a un qui est un petit peu plus compliqué, ou c'est un mot qui est un petit peu moins utilisé dans la vie de tous les jours, etc., là à ce moment là effectivement il y a les croque-mitaines s'en sortent un petit peu mieux, effectivement. Ouais. Par exemple l'exemple de oreiller, c'est vrai que c'est assez difficile, surtout quand c'est des fées qui ont commencé à donner des mots. C'est assez difficile de réussir à emmener le rêveur sur une fausse piste.
Oui. Encore sur un mot comme ça, s'il y en a pas un qui dit coussin, par exemple, toi, tu peux essayer de jouer sur l'ambiguïté.
Matelas, couette.
C'est un coup de bol au final, oui. Quoi, entre oreiller et coussin. Mais oui, j'ai fait exactement le même constat que toi. D'ailleurs, c'est vraiment ce qui fait aussi. Je sais pas si tu te rappelles, on s'étonnait au retour de Cannes. On disait putain, mais tu te dis au début, ça, c'est pas possible, on va pas trouver, quoi.
Ouais.
Et en fait, si, parce que tu te dis, on va pas trouver parce qu'il y en a qui vont te raconter n'importe quoi autour de la table. Donc ouais. Tu sais pas. Mais en fait, si tu trouves, parce que justement, les mots sont simples.
Oui.
S'ils avaient mis des mots trop compliqués, là, t'aurais du mal à trouver. Et effectivement, c'est ce qu'on constate, c'est que quand on est sur un mot qui est pas super simple, c'est là effectivement qu'on a le plus de chances de se casser la gueule, et c'est là que les croque-mitaines, ils ont intérêt à insister pour qu'on se plante. Mmh. Quoi. Alors je sais pas. Du coup, est-ce que c'est juste je sais que récemment j'ai fait deux parties d'affilée, et la deuxième partie, par exemple, les croque-mitaines s'en sont mieux sortis, parce que je pense clairement quand t'es croque-mitaine, il faut être vachement plus subtil, dire que vraiment tu fais un tour de croque-mitaine, tu sais qu'il va falloir que tu réfléchisses, c'est pas faire n'importe quoi.
Ouais, je pense que il y a une courbe de progression qui est assez importante sur le rôle de croque-mitaine par rapport au rôle de fée, où là il faut juste donner des indices en rapport avec le mot. Enfin, c'est plus simple de jouer
fée.
Basique,
ouais.
Je pense que c'est cet effet-là aussi, c'est que, enfin, moi pour le coup j'ai joué plusieurs fois, mais souvent avec des personnes différentes qui découvraient le jeu. Et du coup, le rôle de fée, ben, tu le comprends tout de suite et t'arrives à être, t'as pas besoin d'être subtil. Le rôle de croque-mitaine, ben, soit, comme on le disait, t'essayes de donner des indices, dans le même champ lexical pour éviter de trop te faire griller et de te faire, on va dire, blacklister par le rêveur. Mais dans ce cas, tu donnes des fois des indices pour trouver le mot. Ou au contraire, quand tu vas vraiment strictement à des trucs complètement déconnants ou à l'opposé, ou enfin qui n'ont rien à voir avec le mot à deviner, bah tu te fais un peu aussi blacklister. Donc la subtilité, l'équilibre, il est beaucoup plus dur à trouver que juste donner un mot, un vrai indice, quoi. Donc je pense que c'est aussi une des courbes de progression que peut avoir le jeu. C'est devenir un bon croque-mitaine, c'est beaucoup plus compliqué qu'être une bonne fée, quoi.
Ouais. et finalement, c'est là aussi, les marchands de sable s'en sortent mieux quand même, parce que comme ils vont tantôt jouer un rôle, tantôt l'autre, puisqu'ils doivent essayer d'équilibrer, tu peux gagner quand même la confiance du rêveur et
switcher au bon moment.
Le poignard dans le dos. Mais il faut pas switcher trop tard. En tout cas, c'est un conseil. Je vous conseille de ne pas switcher trop tard. Sinon, on peut se retrouver à avoir des. Moi, j'ai fait des parties où le rêveur, à un certain moment, il a fait carton plein.
Ouais. Et puis en deux minutes, on dirait pas, mais on peut atteindre les 8-10 mots assez facilement. Hein.
Ouais, avec un jusqu'à autant.
Ouais, 8, mmh. 8 j'ai déjà fait hein, avec un rêveur qui va vite ça peut monter à 8 mots ouais. Au final ça fait 6 mots corrects et 3-4 mots le rêveur annonce peut annoncer un nombre de mots assez important.
Ouais. Et c'est là que vient le dernier point de règle, enfin il y en a d'autres, mais bon, le dernier point de règle essentiel, qui est celui du remémorage, ouais. Je sais pas comment on dit.
Juste avant le réveil, en fait, le rêveur va essayer de se souvenir de ses rêves.
Et là, donc, il va falloir qu'il énonce finalement tous les mots qu'il a trouvés sous la forme d'une petite histoire, si possible, hein, pour que ce soit un peu plus sympa. Mmh. En gros, il va essayer de refaire une histoire avec les mots qu'il a énoncés dans son rêve. Et s'il parvient à retrouver tous les mots qui étaient justes, on va regarder que les mots qui étaient justes, il aura un bonus de plus de points.
Mais lui, il ne sait pas ce qui était juste ou pas. Donc, pour lui, en fait, quand on joue le rêveur, on doit. Enfin.
Il faut qu'il retrouve tout.
On a l'impression qu'il faut qu'on retrouve tout. Et il faut qu'on retrouve tout, en fait, parce que on sait absolument pas.
C'est plus sûr.
Ouais, on sait absolument pas ce qui est bon, ce qui est pas bon. Et bon, pareil, encore une fois, le rêveur s'arrête quand il le sent, quand il sait plus du tout ce qu'il y avait, il dit stop. Puis là, il ouvre les yeux et puis il voit à quel point il était dans le vrai ou dans le faux. Ouais.
Et ça pour le coup c'est un élément je trouve que c'est thématiquement c'est l'élément le plus fort dans le jeu. Je sais pas ce que t'en penses, mais clairement le reste finalement il y aurait pu y avoir une autre thématique, je pense, derrière, ça aurait pu marcher. Mais ce côté se remémorer le rêve, là pour le coup c'est vraiment l'élément thématique majeur qui vient vraiment sublimer la thématique du jeu, quoi. On se retrouve vraiment à on a tous connu ça, où quand on se réveille on essaie de se remémorer son rêve, on n'y arrive pas, et ce qui est fort c'est que là pour le coup le jeu rejoint vraiment la réalité, c'est que
c'est très dur,
c'est exactement ça, quoi. C'est
la partie la plus dure
de se remémorer
de tout, ouais.
Ouais. On a souvent du mal à se remémorer les premiers mots, alors que parfois on les a trouvés super vite. Enfin bon, il y a plein de configurations possibles, mais et ça provoque vraiment des rires autour de la table. Enfin, même au-delà de la partie où on essaie de se remémorer le rêve, où on voit le rêveur qui est en train de galérer, il y a des moments dans la partie où on voit les embûches que tendent les autres, parce que autant les rôles sont cachés, autant on voit, enfin, quand on connaît le mot, on sent quand même quand il y en a un qui est en train d'essayer de partir n'importe où, quoi. Et ça peut provoquer des bons fonds aussi quand on voit que le rêveur il est en train de paniquer complètement parce que il a deux champs lexicaux complètement différents d'indices, et que pour essayer de regrouper ça, bah évidemment il peut pas, quoi, parce que c'est pas possible.
Ouais, et oui, c'est vrai que c'est assez difficile. Après, ça donne un bonus de 2 points, je crois, c'est ça. Quand il...
Ouais.
2 points supplémentaires quand le rêveur arrive à retrouver tous les mots. Donc c'est ce qui peut faire aussi la différence avec les points que vont faire les fées, puisque s'il les retrouve pas, en gros il fait le même nombre de points que les fées. Donc là c'est un peu le tiebreaker, on va dire, par rapport aux autres joueurs qui lui donnent des indices. Et du coup, moi je me demande s'il n'y a pas un intérêt à faire traîner un peu les 2 minutes, c'est-à-dire à trouver un peu moins de mots, essayer d'en trouver 3-4, enfin être sûr de pouvoir s'en souvenir. De ce fait, bah tu fais plus facilement les 2 points supplémentaires, et donc tu augmentes un peu l'écart
avec
les autres joueurs.
Ouais.
Quoi. Je pense qu'il y a un subtil... Je pense qu'il y a un seuil au-delà d'un certain nombre de mots où c'est vraiment très 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 dur de pouvoir les... Les réciter tous, quoi.
J'allais y venir, en fait, sur la partie, finalement, tout ça, c'est, on aborde la partie scoring. Je pense que c'est Bah, déjà, on l'a vu, ça ne paraît pas forcément super équilibré. Alors bon, j'imagine que y a eu plein de tests et que ça doit l'être, hein. Après, je pense que c'est peut-être aussi une question de pratique. Mais sur les premières parties, enfin, tous les gens avec qui on a joué s'accordent à dire quand même que l'effet c'est quand même plus facile et du coup ont tendance à gagner. Mais le score, c'est finalement pas le truc essentiel, encore une fois, dans ce genre de jeu. Là, on se rapproche un peu de concept dans lequel le scoring est vraiment anecdotique. Là, pour le coup, le scoring il est bien fait parce qu'il y a des petites subtilités et tout. Mais au final, c'est pas ce qu'on retient à la fin de la partie. Enfin, moi, j'ai quasiment jamais retenu aucun vainqueur des parties, alors que dans tous les jeux de stratégie que je peux faire, je retiens, je me rappelle qui est-ce qui a gagné la partie, quoi.
C'est vrai.
Ouais.
Bah.
Et là, je m'en fous un peu. Même si quand tu joues, tu vois, t'as quand même t'as envie de gagner.
Je suis
tu vois.
D'accord, mais je trouve que le score est quand même mieux amené et a une part plus importante que dans un jeu comme Concept ou comme dans Imagine,
oui.
Où tu sens que c'est vraiment un truc qu'ils ont rajouté pour dire. On met un système de scoring. Là, il est quand
ouais.
même plutôt bien intégré au jeu et à la mécanique.
Ouais,
c'est moins, on sent moins le côté rajouté de Imagine ou de Concept, par exemple, où il n'y en a vraiment pas besoin, quoi.
Effectivement, je trouve qu'il marche bien, mais au final, on se rend compte à la fin de la partie que c'est pas.
Oui, c'est pas ce
c'est
qu'on
pas
retient,
ce qu'il y
ouais,
a...
effectivement.
Ouais, c'est pas ce qu'on retient. Et parce qu'effectivement, après, tu peux clairement, je pense, détourner un peu le truc, tu peux la jouer un peu stratégie, comme tu disais. Je pense clairement que le rêveur, il a tout intérêt à se limiter à peu près 3 mots dont il est sûr. Quand t'es rêveur, tu sens quand même quand t'es parti un peu à côté de la plaque ou quand t'es plutôt pas trop mal quand même. Enfin, ça peut dépendre des parties, mais souvent t'arrives à sentir quand même si t'es complètement à côté de la plaque ou pas. Du coup, je pense que tu peux réussir à t'arrêter en disant quand j'ai fait 5 mots, tu vois, et puis de bien te rappeler des 5 mots-là. Avec un peu de chance, t'en as bien 3 de bons, tu vois. Mais au final, quand tu joues, je me rappelle la partie qu'on a fait à Cannes, tu vois, j'ai dit au pionfesseur, je dis, bah toi, là, regarde le nombre de points qu'il y a à la table, c'était le dernier à passer, je lui dis, écoute, là, toi, tu fais n'importe quel nombre de mots que tu réussis, tu te les rappelles, t'as gagné. C'est vraiment, il était dans cette configuration-là, il était à égalité, je crois, avec quelqu'un, je sais plus, bref, peu importe, il était premier à égalité, donc forcément, il y passe dernier rêveur. Bah voilà, à la limite, tu trouves un mot, tu t'en rappelles, c'est bon, t'as gagné, quoi. Tu vois?
Ouais, bah à part si ouais, un mot oui,
Mais tu
mais
vois, mais
oui.
il a pas eu envie de le jouer comme ça, quoi. Tu vois? Enfin, t'as pas
Non, non,
envie
t'as
de le jouer
envie
comme
d'essayer
ça.
d'en deviner le maximum, ouais.
Voilà. Bon, l'histoire veut qu'il a gagné, il me semble.
Moi, je
Il me
crois
semble
me
que ça, je
souvenir
me
qu'il a
rappelle.
gagné aussi. Tu vois, on se souvient des vainqueurs quand même.
Je me contredis moi-même dans cette chronique, c'est infernal. Voilà. Pour revenir sur le thème, oui, il y a quand même pas mal d'efforts qui ont été faits, donc malgré que ce soit un thème, finalement, moi je trouve c'est un peu le thème sans thème, tu vois, je sais pas, le rêve, c'est un peu, tu peux tellement mettre tout et n'importe quoi sur le rêve, je trouve. Mais bon, ils ont fait des efforts au niveau du matériel avec le bandeau, effectivement, ce fameux bandeau là, le genre de bandeau que vous avez pour prendre l'avion,
C'est ça.
mais à l'effigie du jeu, un lit. Qui sert à un lit donc en plastique qui
Pour
sert
piocher les
à
cartes,
tenir les
ouais.
cartes, voilà, et puis bah les illustrations qui sont effectivement un peu barrées, qui vont mélanger en fait les 2 mots qui sont sur la
Ouais,
carte.
ce que t'as pas dit aussi,
On l'a
c'est que
pas
le
dit,
lit, en
mais
fait, il y a une petite tête de lit
une tête de
qui
lit,
cache un des 2 mots, en fait, pour qu'on voit
ouais.
vraiment qu'un mot. Et les cartes sont recto verso, donc en fait il y a 4 mots par carte, donc ça fait on peut vraiment les tourner dans n'importe quel
C'est
sens, on a
ça,
toujours un mot qui apparaît, quoi.
T'as 110 cartes, du coup, en fait, ça fait x4
C'est ça.
mots, donc ça fait 440, enfin, j'allais dire autant d'illustrations, non, il y a 220 illustrations,
C'est
du coup,
ça.
mais qui mélange un peu les deux. D'ailleurs, je sais pas ce que t'en penses, toi, mais les illustrations, en fait, bah, il y en aurait pas eu, on aurait critiqué, mais il y en a, ça apporte pas
Bah,
grand-chose.
en fait, mécaniquement, elles ne servent à rien. Mais thématiquement, moi, je trouve qu'elles apportent quand même pas mal parce que
C'est
il y a
ça.
ce côté, effectivement, mélange des 2 mots. Alors, à chaque fois, les illustrations sont assez rigolotes parce que c'est souvent 2 mots qui n'ont rien à voir, genre cheval et ordinateur. Enfin, d'un côté cheval, l'autre côté ordinateur. Et en fait, à chaque fois, l'illustration va mélanger, enfin, comme dans un rêve où il y a des choses improbables qui se passent ou il y a des trucs pas logiques du tout, ça va mélanger les 2 mots. Donc on va voir un espèce de centaure avec une tête d'ordinateur ou pour cheval et ordinateur. Et enfin, effectivement, mécaniquement, elle n'apporte rien, mais thématiquement, je trouve qu'elle rehausse bien encore cette thématique du rêve et l'immersion un peu qu'on peut avoir dans le jeu et dans cet univers un peu onirique.
Certains diront en fait que ça peut être aussi un support pour en particulier pour les croque-mitaines, ouais, pour essayer de trouver des mots.
Oui, parce qu'il y a l'image avec le mot à faire deviner, mais avec aussi des autres idées complètement différentes.
Ah, voilà. Mais voilà, comme on l'a dit précédemment, je vous le déconseille, il faut être un peu plus subtil que ça, quoi. Voilà. Mais bon, effectivement, quand on n'a pas d'idées, ben, pourquoi pas. Hein. D'ailleurs, je sais pas si tu savais, mais il y a des règles de pénalité que j'ai découvert du coup en achetant le jeu. Il y a des règles de pénalité dans le jeu.
Peut-être.
Si tu mets trop de temps, plus de 5 secondes, tu as une pénalité. Tu prends,
ah oui, quand tu dois faire deviner un mot.
Ouais. Ouais, c'est ça, tu prends une carte et du coup t'as une pénalité, ça t'enlève des points, quoi, en gros. Voilà. Et puis je sais plus, c'est que tu donnes un mot de la même famille ou des choses comme ça.
Ouais. Bref.
Au niveau des configurations, moi j'ai joué à 4, j'ai joué à plus, voire beaucoup plus. Je sais pas jouer à 10, mais on a dû jouer à 8 ou 9 au week-end proxy jeu, je crois. Ça marche même à 4. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, il y a un nombre de rôles qui... Enfin, les rôles sont connus d'avance, hein, le nombre de chaque carte qui va être distribuée est connu d'avance. Il y a toujours une carte de trop, ce qui fait que il y a toujours une petite incertitude
sur le nombre de croque-mitaines, de fées, ou s'il y a un marchand de sable,
voilà,
ou pas, quoi.
Exactement. Bon, c'est voilà, c'est une histoire d'amener un peu de. Je pense qu'il faut être troisième dan un peu pour exploiter cet aspect-là. Alors à 4 ça marche. J'ai quand même préféré les parties où on était plus nombreux, personnellement. À 4, faut être quand même particulièrement malin quand t'es croque-mitaine, quoi. Mm. Parce que dès qu'il y a qu'une fée, je crois. Deux marchands de sable, je crois, et un croque-mitaine. Mais dès que t'as la fée autour de la table, c'est vraiment chaud, quoi. Parce que, comme on l'a dit avant, quoi.
Après, si tu dis qu'il y a une fée, un croque-mitaine, deux marchands de sable, c'est de dire qu'il y a forcément un marchand de sable à chaque fois. Et du coup,
mais comme c'est plus facile, si tu veux, comme c'est plus facile de donner des bons mots quand le marchand de sable joue le bon côté, et il réussit sans trop de problèmes. Et quand il essaie de jouer le mauvais côté, ben ça marche pas toujours bien, quoi. Mm. Tu vois, en fait, c'est toujours un peu ça l'histoire, quoi. Enfin, bref, on va pas la refaire, mais donc c'est ça, il y a une fée, un croque-mitaine et deux marchands de sable à 4, et donc que 3 rôles distribués. Alors après, enfin, si vraiment vous constatez qu'il y a un problème là-dessus et que vous voulez vraiment jouer les points, il suffit de rajouter, je sais pas, un point croque-mitaine à chaque fois, et peut-être que tu vois, ça peut rééquilibrer un peu, quoi. Mm. Si c'est vraiment problématique, mais voilà. Je me suis renseigné aussi sur la suite à donner au jeu. Alors il se trouve apparemment que l'auteur travaille sur une extension. Alors je ne sais pas du tout la nature, et peut-être qu'elle sortira jamais non plus, hein, si au final, je sais que RoboProd, hein, si ça leur plaît pas, ils feront travailler le machin pendant 3 ans, s'il faut, voire plus, pour que ça sorte correctement, et s'il y a rien qui leur plaît, ça sortira pas, hein. Mais voilà, en tout cas ils m'ont dit que l'auteur travaillait sur une extension. Ça m'a moi-même étonné, j'ai presque posé la question par acquis de conscience, quoi, et au final
il y a bien quelque chose qui se trame.
Ouais. Et je me disais aussi que, alors j'ai cherché un peu s'il y avait des variantes sur BGG, mais j'ai pas trouvé grand chose de très pertinent, mais je me disais que finalement ça pouvait aussi très bien se jouer en time attack, en contre la montre, tu vois, finalement en complètement coopératif, où tu vas essayer de donner des indices au rêveur, et puis tu vois, avec des enfants peut-être plus jeunes, je pense que ça va être faisable, quoi. Le jeu, il est à partir de 8 ans, c'est quand même déjà super accessible. La cible, c'est clairement, à mon sens, tu vois, les gros groupes familiaux, les groupes d'amis, un peu comme ce qu'on peut trouver effectivement sur Concept.
Tout à fait, ouais.
Plus accessible, parce que là, c'est à partir de 8 ans. Comme les mots sont faciles, ça va. Alors, ça vous empêche de faire des blagues de cul sur les mots, mais bon, voilà.
On peut se tenir,
un peu, quoi. Ou alors, il faut attendre qu'il soit couché. mais Bon, c'est le genre de truc aussi qui peut participer à la rigolade. Et donc, ouais, je pense que en full coop, ça doit pouvoir se jouer aussi. Alors, c'est plus le même jeu.
Ouais, ça perd un peu de sa subtilité et de l'intérêt des rôles cachés, quoi.
On est d'accord.
Mais ouais, oui, ça peut se faire.
Mais voilà, c'est ça. Du coup, vous aurez compris, hein, moi j'ai vraiment bien aimé le jeu. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est vraiment la sensation un peu d'être, tu vois, quand t'es paumé, t'es le rêveur, et tu sens que t'es paumé par les indices des autres. C'est assez déstabilisant, et en même temps c'est ça qui te fait rigoler, quoi. Et vraiment, on l'a déjà dit, hein, mais le côté technique du croque-mitaine ou du marchand de sable, c'est presque plus valorisant en marchand de sable, parce que comme il faut que tu donnes des bons indices à certains moments, et puis que tu retournes ta veste à d'autres pour aller donner des mauvais indices, je trouve que c'est encore plus valorisant finalement le rôle de marchand de sable. Mais il y a vraiment un aspect technique là-dessus qui est sympa. Ouais. On retrouve pas de la technicité sur les jeux de mots comme dans du Decrypto ou du Codenames, hein. On n'est pas du tout là, hein, mais il y a vraiment un côté sympa à jouer ces rôles-là. D'ailleurs, petit conseil stratégique finalement, c'est ça qui est pas facile finalement, c'est que les croque-mitaines, quand on joue à nombreux, quand on essaie de mettre des bâtons dans les roues du rêveur, de l'envoyer sur des fausses pistes, ce qui marche le mieux finalement, c'est quand quelque part on arrive à s'entendre autour de la table sur un autre mot qui, si possible, est un peu, mais pas trop trop loin du mot à trouver. Mais c'est là que finalement on arrive à semer aussi le
doute,
le rêveur. Ouais. Finalement, c'est réussir à l'envoyer sur un autre mot.
Oui, effectivement, quand il y a plusieurs croque-mitaines, c'est un peu plus facile parce que les suivants peuvent se raccrocher un peu sur l'indice foireux du premier et essayer de rester dans le même champ lexical.
T'as bien intérêt à le faire justement. Ouais. Je sais que j'ai eu le tour une fois où finalement j'ai donné le mot sur lequel les croque-mitaines étaient partis, j'étais moi-même croque-mitaine. Quand tu donnes le mot, après bah, tu sais que c'est plus celui-là, donc c'est pas bon, quoi. Et bon, voilà.
Oui, mais tant que tu restes dans le même champ lexical, c'est pas très grave.
Ouais. Donc au final, ouais, on a un jeu, je trouve, qui surfe sur pas mal de trucs connus, et c'est peut-être aussi ce qui fait son succès, hein. C'est au final, tu vois, montre ça à des gens relativement casual, ils savent se raccrocher à des choses, tu vois, ils sont pas perdus, il y a le côté rôle caché de loup-garou, il y a même le masque, finalement tu fermes les yeux, tu vois, on pourrait presque aller jusque là, et puis en même temps le côté un peu pyramide où on peut rapprocher aussi ça de tabou finalement, où tu vois, t'as des mots à faire deviner, donc finalement on est vraiment sur des trucs super super connus, et en même temps ça crée des sensations différentes. C'est plus simple qu'un Insider, ou en plus le système de score à la fin il est assez compliqué.
Ouais.
J'adore
l'arbre
mais,
de
mais, ouais. Là t'es obligé de sortir les règles à chaque fois. À la fin c'est pas possible autrement. là il y a pas d'ambiguïté.
Ouais, les règles sont vraiment expliquées en 5 minutes, ça se joue assez vite, c'est familial, c'est vraiment très accessible. Ouais,
il donne 30 minutes, mais si tu joues à 4, tu fais même pas 30 minutes.
Ouais, c'est clair.
Tu fais quoi,
2 minutes x 4. Un peu plus long parce que tu discutes un peu,
plus,
machin.
Voilà. Ouais, ça fait un quart d'heure à 4, quoi. Ouais. Comme ça. En revanche, si on joue à 10, là, c'est un peu plus. Surtout que là, ça discute plus, ça rigole plus, donc là, ça va faire plus qu'une demi-heure. Mais, voilà.
Non, je te rejoins sur les qualités du jeu. Moi, je l'apprécie aussi. Et puis, un beau travail d'édition aussi, de repos sur le matériel, le petit lit, les illustrations qui, encore une fois, mécaniquement, n'apporte rien, mais enrichissent vraiment l'édition du jeu, quoi.
C'est ça.
Joli travail.
Donc, When I Dream, un jeu de Chris Darsaklis, édité chez Repos Productions, illustré par tout plein de monde. Je vous laisserai aller voir l'affiche sur BGG ou autre. C'est dispo chez Philibert à 26,90€, et c'est pour 4 à 10 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 30 minutes. Et moi, je pense qu'on peut dire qu'il n'y a pas de mensonge sur les caractéristiques techniques.
Tout à fait.
Et ben voilà, bah du coup je propose qu'on passe à la suite, et donc Château Aventure, partons à l'aventure.
C'est parti. Eh bien, Château Aventure, alors on peut pas vraiment dire que ce soit un jeu à proprement parler, c'est plutôt un concept. On est un peu sur un OLNI, un objet ludique non identifié. Donc c'est une idée et un concept de Jared A. Sorensen, donc un Américain très actif sur la scène jeu de rôle en fait aux États-Unis depuis la fin des années 90.
Est-ce que ouais. C'est quelqu'un qui vient de la Forge ? Je sais que c'est un truc, un courant des États-Unis dans le jeu de rôle,
ouais.
Dont Romaric Briand de la cellule parle beaucoup. Même si j'ai pas écouté de podcast de la cellule depuis longtemps, mais non, tu
je
sais pas.
Je sais pas te répondre. Je sais que voilà, c'est quelqu'un qui était très impliqué dans le jeu de rôle, qui a créé plusieurs jeux de rôle. Je sais pas te dire s'il était dans la forge, c'est ça.
Je sais pas,
je suis pas un gros joueur de jeux de rôle, donc on se renseignera, mais en tout cas c'est quelqu'un qui vient du milieu du jeu de rôle américain depuis, ouais, enfin j'ai vu que c'est certains jeux de rôle dataient déjà des années 90, de la fin des années 90. Et
Wikipédia me dit oui, c'était un membre de la forge.
Okay, donc c'est bien un membre de la forge. Pour ceux qui savent ce que c'est, voilà. Donc en fait, ce monsieur Sorensen, en 2010, crée ce concept qui à l'époque s'appelle Parsley Games. Et en fait, ça consiste en quoi ? Ça consiste simplement à reproduire les jeux de rôle textuels des années 80. En jeu de rôle en fait, c'est-à-dire les jeux de rôle textuels PC des années 80 où en fait il n'y avait absolument pas de vidéo, c'était pas un jeu vidéo, c'était un jeu vraiment textuel où le PC, l'intelligence artificielle décrivait des lieux et le joueur devait rentrer des lignes de code ou des commandes directement, genre aller vers le nord, ramasser clé ou attraper clé. Et l'ordinateur renvoyait si la commande était valide ou non, et si elle était valide, il se passait quelque chose, et il y avait une description supplémentaire, et l'histoire avançait comme ça, vraiment purement avec du texte. Donc,
en gros, c'est les livres dont vous êtes le héros, mais en version
voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment encore plus basique, limite, qu'un livre dont vous êtes le héros. C'est vraiment
avec je pense un côté littéraire un peu moins poussé en plus.
Ouais, quoique je crois que à l'époque il y avait quand même justement comme l'aspect graphique était nul, il y avait des jeux de rôle comme ça sur PC où justement l'aspect narratif était assez développé. Mmh, où il y avait des histoires quand même assez intéressantes et il y avait des tonnes de choses à lire. Donc cet Américain, Jared A. Sorensen, crée plusieurs scénarios, puisque ça va être des scénarios sur ce principe-là. Donc avec, en fait, le scénario, c'est un guide pour le maître du jeu, qui joue l'ordinateur, en fait, et donc qui va décrire un lieu, et va attendre les indications ou les commandes des autres joueurs, et va leur répondre en fonction de ce que les autres joueurs vont dire, si ça marche ou si ça marche pas, et si ça marche, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc ce principe-là, en fait... a été créé. Sorensen a fait au départ 6 scénarios. Il en fera 9 au total. Et en 2010, donc, je ne sais pas si j'avais donné la date. Et en 2011, il y a Ludovic Papaïs qui travaille désormais chez Yellow, mais qui à l'époque avait une petite boîte d'édition et un site internet qui s'appelait La Boîte à eux, qui justement était recherché des jeux de rôle un petit peu originaux ou des concepts de jeux de rôle un peu originaux et un peu particuliers qu'il importait d'un peu tous les pays. Et donc en 2011, il trouve ces Parsley Games de Sorensen et donc il en édite deux des scénarios de Sorensen en français. Donc il y a une petite édition qui est faite de ces Parsley Games et il propose aussi sur son site à des gens de pouvoir faire des scénarios fan-made en fait. Donc on peut encore retrouver sur le site de la boîte à eux qui est toujours en ligne, on peut trouver quelques scénarios de l'époque de 2011-2012 fan-made, pas forcément vérifiés hein, mais un certain nombre de scénarios. Et donc ça tombe pas dans l'oubli parce que les gens s'en souvenaient un petit peu, mais il n'y a pas eu de nouveaux scénarios ou de relance de ce système de jeu jusqu'à cette année où sort Château Aventure à Cannes. Donc Château Aventure c'est quoi ? C'est un livre, en fait c'est un livre qui va reprendre ce principe des jeux de Parsley Games. Donc on retrouve 4 des scénarios de l'auteur d'origine dans ce livre. mais il y a 12 scénarios au total, et en fait, Yellow a demandé à pas mal d'auteurs de la scène francophone, et surtout française en fait, de créer des scénarios originaux pour la sortie de Château Aventure. Donc, en plus des 4 scénarios de Jared A. Sorensen, on a des scénarios de Corentin Lebras, Ludovic Papaïs, Antoine Boza, Anthony Combrexel, Théo Rivière, Gabriel Durnerin et Ludovic Maublanc. Théo Rivière signe 2 scénarios, je crois, dans le bouquin, donc ça monte le livre à 12 scénarios, très 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 variés, avec la participation aussi de beaucoup d'illustrateurs, parce que pour chaque scénario, il y a un illustrateur différent. Donc là, c'est vraiment toute la fine fleur des illustrateurs du jeu de société. Donc je vais les citer quand même vite fait. Il y a Miguel Coimbra, il y a Paul Mafaillon, Jérémy Fleury, Xavier Colette, Nayade, Vincent Joubert, Mathieu Lessen, Jib, Vincent Dutré, Pierrot, Maeva Da Silva et Christine Deschamps. Donc vraiment des auteurs et des illustrateurs qui sont très connus de la scène ludique française et francophone.
T'as été bien plus courageux que moi, bravo.
Ouais.
Alors je rappelle quand même à ma décharge que moi je me les suis tapés au retour de Cannes.
C'est vrai que tu les as tous. Mais il y en a pas mal en commun entre Château Aventure et.
C'est vrai, c'est vrai.
Il y en a qui marchent dans les. Il y en a pas mal qui marchent dans les.
Je suis pas amusé à faire le. à faire effectivement le comparatif. Ah, pas tant que ça. Hein.
Non,
que
bah
ça.
Juste.
Il y a Miguel qui. Oui, Miguel.
Ouais, il y a Maeva Da Silva.
Vincent Dutré, tu l'as.
Ouais, Vincent Dutré. Il y a Maeva Da Silva et Christine Deschamps. Mathieu Lessen aussi, non? Il est pas sur One Night Dream? Non, peut-être pas.
Non, on n'y est pas.
Non, mais il y en a quelques-uns en commun. Et donc ce livre avec ses scénarios, parce que c'est vraiment un livre, hein, on en reparlera, mais du coup. Il est édité comme un livre, c'est-à-dire qu'il bénéficie de la TVA à 5% ou un certain nombre d'avantages que n'ont pas les jeux de société classiques. Il est disponible chez Philibert, mais en rupture de stock actuellement pour la modique somme de 25 euros. Ouais, on a un peu le chic de parler de jeux qui sont en rupture de stock.
Ouais, régulièrement, ça.
Voilà, One Eye Dream est un petit peu plus vieux, du coup, il n'y a pas le cas. Et puis, ils ont fait des retirages. Bon, Château Aventure est plus disponible chez Philibert.
D'ailleurs, tu disais que c'était un livre, mais précisez quand même qu'il est, packagé dans une espèce de petite boîte.
Ouais, il y a un petit coffret.
Légèrement cartonné.
C'est ça, il y a un petit coffret.
Ouais, qui fait pas forcément plaisir à tout le monde, le côté carton souple.
Non, mais alors, la boîte ne sert vraiment pas à grand chose, si ce n'est à avoir, en plus du livre, pour le maître du jeu, il y a les plans. Des scénarios, en fait, les cartes des scénarios qui permettent de se repérer, qui sont sur des espèces de grandes cartes illustrées d'un côté, une belle illustration d'un côté du scénario et de l'autre côté la carte, et des petites cartes à jouer qui sont spécifiques à un scénario. Donc c'est juste pour packager ça un petit peu, mais en soi la boîte, l'espèce de boîte carton soupe sert pas à grand chose.
Hein. Effectivement, ça sert à pas perdre les plans et les fameuses cartes.
C'est ça. Ouais. Donc, le nombre de joueurs, pour terminer la fiche signalétique, alors c'est conseillé de 2 à 10, donc 2 joueurs c'est le minimum, puisqu'il faut au moins un maître du jeu qui va avoir toutes les informations sous les yeux, et au moins un joueur qui va lancer les commandes, mais potentiellement, en fait, on peut jouer à beaucoup plus que 10, l'auteur lui-même a déjà fait des expérimentations dans des amphis, avec plus de 100 personnes, où chacun son tour va annoncer une commande, ce qui peut être très chaotique, mais ce qui est aussi assez intéressant, c'est-à-dire que il faut très bien écouter et puis bien suivre ce qui se passe avant pour savoir quoi faire. Et je crois qu'il y a eu des animations aussi depuis la sortie, à Ludinor notamment, je crois qu'il y a Théo Rivière, Ludovic Maublanc qui ont animé une partie un peu géante comme ça de Château Aventure.
Oui, j'avais entendu parler de ça.
Avec une salle, alors il y avait peut-être pas 100 personnes, hein, mais il y avait, je pense... une bonne quelques dizaines de personnes qui ont participé. C'est annoncé à partir de 10 ans, mais je pense que pour certains scénarios, ça peut même être bien avant, pour les scénarios les plus simples, puisque à partir du moment où un adulte fait le maître du jeu, des enfants peuvent très bien annoncer des commandes ou ce qu'ils veulent faire. Et en fonction des scénarios, c'est des parties, ça c'est un avantage aussi, c'est 30 minutes à 1 heure. Donc pour faire découvrir le jeu de rôle à des enfants, les premiers scénarios peuvent être pas mal.
Alors sur jeu de rôle, on est quand même assez loin des standards de jeu de rôle. Hein. T'incarnes enfin, t'es vraiment pas libre de faire ce que tu veux avec ton personnage, tu vois. Mais je mettrai quand même des guillemets sur le terme jeu de rôle. Hein. D'ailleurs, je suis allé vérifier sur le GROG, le jeu est même pas référencé. Bon, alors après, je crois qu'ils sont quand même assez, je vais dire élitiste, pas élitiste, mais c'est pas le bon terme. Mais je crois qu'ils sont assez exigeants en fait sur la
définition du jeu de rôle. Ouais.
Voilà, la définition du jeu de rôle. Mais voilà, enfin, en tout cas, il est pas sur le GROG, le jeu. D'ailleurs, il y a eu un moment d'ailleurs où il y a eu une espèce de no man's land parce qu'il était ni sur BGG ni sur le GROG, tu vois. Enfin, il devait être chez Trick Track quand même, ouais. Mais il y a eu. Je me rappelle qu'il y a eu un moment, il y a eu un petit no man's land.
Il n'était pas référencé sur les sites spécialisés.
Ouais, après la sortie, quoi. Mais bon, après, il était peut-être pas non plus sorti aux États-Unis, donc bref, c'est peut-être un peu ça qui explique cela. Mais...
Ah, alors, effectivement, c'est pas un jeu de rôle au sens classique du terme, mais ça se rapproche quand même, à mon sens, plus d'un jeu de rôle que d'un jeu de société. C'est un jeu de rôle qui va être très très guidé, effectivement. Mais
c'est très scripté en fait, quoi. C'est très très scripté.
C'est très scripté. C'est pas aussi libre qu'un jeu de rôle. Ce serait vraiment un jeu de rôle très guidé. Mais je pense que pour découvrir un peu, alors c'est très, je sais pas, je vais peut-être me faire huer par les spécialistes du jeu de rôle quand je dis ça.
Vas-y. Mais on se fera huer, ça va faire du buzz et tout, ça va être génial.
Pour découvrir un petit peu, justement, pour s'extraire, je pense, de quelque chose de très physique ou visuel, pour s'extraire d'un jeu vidéo où on va voir l'image, ou d'un jeu de société où on va avoir des éléments, le plateau, etc. Le jeu de rôle, c'est quand même jouer avec son imagination, quelque part. Mmh. Et de ce côté-là, en fait, on va pouvoir avoir une introduction un peu à ça, et quelque chose de beaucoup moins long, de beaucoup moins complexe, de beaucoup moins exigeant que peut l'être un jeu de rôle, surtout pour le maître du jeu en fait, mais de faire découvrir quand même ça à un public beaucoup plus large, on va dire, que le jeu de rôle traditionnel. Ça va peut-être faire ça fera peut-être des émules qui viendront au jeu de rôle, justement, je pense, Château Aventure.
Ce qui le rapproche presque le plus du jeu de rôle, finalement, c'est le fait qu'il n'y ait pas de matériel.
C'est
fait,
ça.
Pour les joueurs.
Oui,
quoi.
Tout à fait.
Et le fait qu'il n'y ait que le maître de jeu qui loin un livre, tu vois. C'est ça. C'est presque ça.
Tout à fait, c'est ça. C'est vraiment le maître de jeu derrière son paravent, avec ses manuels, avec son scénario, et les autres joueurs, c'est vraiment purement de. Ils doivent s'imaginer ce qu'ils sont en train de vivre et ce qu'ils voient, et c'est vraiment ça qui est intéressant. Donc le jeu dans sa version française, Château Aventure, est sorti à Cannes, donc une sortie relativement remarquée, puisqu'il y a eu une séance de dédicaces géante avec la plupart des auteurs et des illustrateurs. Il y a quelques photos qui ont tourné, c'était assez sympa, je sais plus combien c'était, mais plus d'une dizaine à dédicacer le bouquin, du coup. Alors comme je l'ai dit, le livre contient 12 scénarios, et le livre en fait ne sert qu'au maître du jeu, les autres joueurs n'ont absolument aucun matériel. Et donc le maître du jeu dans le livre va avoir un descriptif de l'endroit de départ, et après de toutes les pièces ou de tous les lieux qui sont imbriqués. Et donc les joueurs vont pouvoir proposer des actions. Alors le maître du jeu a le texte sous les yeux, donc il conseille au départ, en tout cas quand une action n'est pas possible ou qu'elle est mal énoncée, de dire comme un ordinateur en fait « commande impossible ». Mais dans ce cas-là, le problème, c'est qu'il va dire très très souvent « commande impossible », puisque finalement, les scénarios sont... les scénarios sont relativement courts, en tout cas pour les premiers. Il n'y a pas énormément de choses à faire. Et la tendance des joueurs, ça va être d'énoncer énormément de choses. Donc, en fait, le maître du jeu, c'est un peu comme pour le jeu de rôle, ça s'apprend vraiment. C'est-à-dire qu'au début, ça va être très froid. Et au fur et à mesure, et à force de jouer le même scénario aussi, parce que forcément quand on découvre le scénario, qu'on a le nez sur le bouquin, on va avoir très peu de place à l'improvisation, surtout si on n'est pas très à l'aise au début. Mais il y a vraiment un effet de plus on va jouer, plus le maître du jeu va faire jouer le même scénario, plus il va pouvoir s'adapter aux situations, même créer des petites choses en plus, ou en tout cas inventer des phrases, par exemple, je sais pas, ramasser... fouiller le lit ou etc. Il n'y a pas forcément de situation qui est décrite à chaque fois dans le livre, mais le maître du jeu va pouvoir
inventer
des répliques
ouais.
Qui sont un peu plus intéressantes.
Ouais. Et ça c'est un truc vraiment que je trouve ça différencie complètement les tables de jeu en fait.
Oui.
Quand t'as un maître de jeu qui arrive à avoir des répliques, enfin qui a de la répartie en fait, qui arrive à trouver des petites répliques à tes actions qui sont entre guillemets connes, qui en tout cas collent pas au scénario, c'est là que bah tu vas avoir un peu de fond et retour de la table, que tu vas voilà. Et c'est quand même assez délicat, l'air de rien, de placer ces répliques, parce que je sais que je me suis amusé à le faire personnellement, et des fois en fait tu te rends compte que les joueurs ils croient du coup qu'il y a un truc, tu sais.
Oui.
Comme tu balances une connerie, alors faut réussir à ce que ta connerie soit assez grosse quand même pour que les joueurs aillent pas
Ouais,
là-dedans, ou
on
alors
pense pas que
après
c'est
t'es
un
obligé
indice.
de
Mais.
alors après t'es obligé de sortir un petit peu de ton rôle d'ordinateur et dire bon non, laissez tomber, passez à autre chose
C'est
quoi.
ça. Bah, je vais y revenir un peu sur tout ça, sur tout cet aspect-là. Du côté joueur, en fait, tous les joueurs représentent, c'est ça aussi qui le différencie beaucoup des jeux de rôle traditionnels, c'est que tous les joueurs incarnent le même personnage, en fait. C'est comme si on jouait à un jeu vidéo à plusieurs et chacun appuyait à tour de rôle sur la manette, quoi. Et donc, tous les joueurs incarnent le même personnage et vont chacun leur tour énoncer une commande, qui en gros est une action qu'ils veulent tenter de faire. C'est assez intéressant parce que du coup, même si les joueurs ne jouent pas à tous les tours, parce qu'il faut attendre que chacun énonce une commande, les joueurs doivent rester attentifs à ce qui se passe et aux commandes que lancent les autres. Moi, j'ai déjà fait des parties où il y a un gars qui écoutait pas et du
Ouais,
coup il lance
c'est
une
ça,
commande et en fait il est plus dans la bonne pièce, le mec a déjà fait ça, tu vois. Donc c'est n'importe quoi. Donc
ouais. Ça, c'est le boulet qu'il y a
voilà,
toujours un dans toutes les
il y en a
parties.
toujours un, mais dans ce cas là, le maître du jeu doit trouver la bonne réaction pour lui faire comprendre qu'il est un peu à côté de la plaque et que, enfin, généralement il se fait rattraper par ses collègues, hein. Donc ils n'ont vraiment, enfin les joueurs ont vraiment aucun support devant eux et doivent vraiment 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 faire travailler bah, leur imagination déjà par rapport aux descriptions que va faire le maître du jeu, à leur mémoire aussi par rapport à ce qui s'est passé avant, aux anciennes descriptions, aux choses qui changent, à ce que les autres ont fait comme commande, etc. Et puis la déduction aussi, parce que c'est des jeux qui... Faut savoir que la condition de victoire au départ est absolument inconnue des joueurs. C'est-à-dire qu'ils partent vraiment, à chaque fois ils sont débarqués dans un
Oui, tu
endroit.
sais pas ce qu'il faut que tu
Ils
fasses,
savent
quoi.
pas ce qu'ils doivent faire, ils sont débarqués et ils essayent des choses et donc ils doivent vraiment faire un peu un travail de déduction en fonction du scénario et en fonction du fil rouge de l'histoire que va prendre l'histoire pour essayer de savoir quelle est la finalité en fait de leur but dans la vie
C'est
de
ça,
ce
ouais.
scénario.
En fait, ce qui est marrant, c'est que, enfin, moi, j'ai pas fait tous les scénarios, mais au début, en fait, il faut que tu, quelque part, au début, tu dois ramasser des objets.
Oui.
Tu sais pas pourquoi. Après, il faut que tu saches pourquoi. Et après, il faut faire le truc, quoi.
Là-dessus, on se rapproche aussi un peu, pour ceux qui ont pratiqué, dans la mécanique en fait générale, des point and click, qui sont en fait des descendants un peu aussi de ces jeux de rôle textuels. Toute la mouvance LucasArts avec les Monkey
LucasArts,
Island, avec les Grim Fandango, Days of Tentacle, enfin tout ça, moi j'y ai pas mal joué et bah globalement voilà, c'est on visite des lieux, on essaye de ramasser des choses dans les lieux et puis après faut combiner des fois des objets pour les utiliser ailleurs. Il y a toute une, en fait, on peut visiter, enfin dans Château Aventure la plupart du temps, sauf certains scénarios, mais on peut potentiellement visiter la plupart des lieux. Certains sont bloqués parce qu'il nous faut des choses et bah, l'enchaînement de ce qu'on va visiter et de ce qu'on va récupérer est important parce qu'on peut aller dans un endroit où on pourra rien faire tant qu'on n'a pas visité un autre et qu'on n'a pas récupéré un objet, etc. Donc là-dessus, ça se rapproche pas mal de tous les point and click.
Il y a un côté logique en fait
Voilà,
quoi
il y a un côté très
dans ces
logique
jeux.
qui parfois est pas forcément évident. Ça, j'y reviendrai aussi dans les choses que j'ai moins aimées, mais tout est pas forcément pas forcément
Tout
évident.
est pas toujours logique.
Voilà, tout est pas forcément, enfin, il y a toujours une certaine logique, mais c'est beaucoup plus logique quand tu le lis ou quand tu l'écris que quand tu n'as
Quand tu
rien et
le quand tu
quand t'es, ouais,
réfléchis
quand tu réfléchis, que t'as rien sous les yeux en fait. Ça, c'est pour le principe, hein. Globalement, ça va être un peu dur de parler plus des scénarios sans spoiler. Il faut savoir déjà que bah, les scénarios sont très très variés. Le niveau de difficulté aussi est très varié. Ils ont classé ça en trois niveaux de difficulté, hein. Niveau des thématiques, des thèmes abordés dans les scénarios, il y a vraiment vraiment de tout. Mais ce qui est intéressant avec ce jeu aussi, c'est que bah, là, on a 12 scénarios, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de scénarios homemade, en fait. C'est quelque chose qui... Mmh. En fait, c'est une base mécanique qui peut être utilisée assez simplement, en fait. Même quelqu'un qui n'est pas forcément... Il n'y a pas besoin de matériel, il suffit d'écrire... de dessiner un bout de carte, d'écrire, voilà, de mettre deux, trois objets qui... deux, trois enchaînements logiques.
Ouais. Et déjà, tu pourrais complètement reprendre des bouts de scénario des Monkey Island.
Ouais, tout à fait,
des,
tout à fait.
Days of the Tentacle.
Ouais,
enfin,
tout à fait.
Tu pourrais complètement repomper des trucs existants. Là, toi,
tu peux tout à fait reprendre ça. Et je pense que c'est vraiment une mécanique et un concept qui peut être utilisé relativement simplement. Alors, entre faire un scénario et faire un bon scénario, c'est là où est la difficulté. Mais ouais, faire un scénario, c'est assez simple. Et je pense que ça se prête bien à voir fleurir sur le net pas mal de scénarios faits maison, en fait, qui pourront être utilisés. C'est-à-dire que on a les 12 scénarios qui sont assez variés, qui sont plus ou moins complexes. Et qui sont pour le coup édités, donc d'une qualité, je pense, j'ai pas fait tous les scénarios non plus, mais pour ceux que j'ai fait, la qualité est au rendez-vous. Mais en fait, il pourra potentiellement en avoir plein qui fleurissent sur Internet. C'est ce qui est aussi un peu, c'est aussi ce qui est intéressant sur ça. Il y a d'ailleurs, je crois déjà, Yann Drev de Vidéo Règle qui a fait un scénario et qui avait fait une session en live sur Internet. Mmh. Pour faire
c'était
jouer.
Avec un scénario à lui.
Ouais, c'était avec
ça
un scénario à lui, tout à fait.
D'accord. Ouais, c'est le genre de jeu qui se prête bien à être joué aussi, effectivement, sur Discord, enfin sur des trucs en live, quoi.
Ouais.
Parce qu'en plus, t'as pas besoin de visuel.
Tout
donc,
à fait. Il faut juste que les joueurs respectent une commande chacun leur tour. Mais une fois que t'as un
c'est
nombre
ça.
De joueurs arrêtés, tu fais une espèce de liste et voilà, c'est assez facile. D'enchaîner les uns après les autres. Donc ouais, ça se prête tout à fait à du...
Tu pourrais même le faire à la façon de ce qui se fait dans les trucs de jeux vidéo. Alors je connais pas le terme exact, mais
oui,
il y a des systèmes dans le jeu vidéo où tu prends la commande majoritaire ou je sais pas,
oui,
quoi,
tout à fait.
Temps
sur Twitch, il avait fait moi j'avais essayé de jouer un peu, mais ils avaient essayé de faire Pokémon et en fait
Ah, c'est ça,
mais c'était même pas la commande
ça,
majoritaire, hein, c'était que toutes les commandes lancées par tout le monde étaient prises en compte. Mais du coup,
on va parler des deux variantes, ouais.
Ouais, du coup, en fait, c'est comme il y a plein de commandes qui sont lancées, effectivement, il se passe plein de trucs, mais globalement, c'est la commande majoritaire. Si y a 50 personnes qui appuient vers le haut et puis 30 à droite, le personnage va plutôt se déplacer vers le haut, tu vois. Mais c'était un gros bordel, mais apparemment ils sont quand même arrivés au bout de Pokémon en je sais pas combien de mois,
ouais,
mais
ils
sont arrivés à finir Pokémon. Donc oui, ça peut être dans cet esprit là, mais je pense que là il faut pas que ce soit aussi chaotique, c'est quand même on peut tout à fait jouer en ligne sur des plateformes type Twitch ou même sur Discord, mais faut quand même que le maître du jeu arrive à savoir quelle commande se passe à quel moment, etc. Du coup, sur mon avis global, c'est que le concept est vraiment assez simple, en fait, mais l'originalité est là, quoi. Et c'est vraiment une très très bonne idée qu'a eu Sorensen là-dessus. Je vais encore faire un parallèle avec le jeu de rôle, mais moi je pense vraiment que c'est un accès assez simple à la découverte un peu du jeu de rôle, de cette alors pas de tout le jeu de rôle, mais de cette relation joueur-maître du jeu. Ça peut faire découvrir aussi le rôle de maître du jeu à certains, en étant beaucoup plus guidé que ce qu'il faudrait, parce que être maître du jeu dans un vrai jeu de rôle, c'est un gros gros boulot. Là, en fait, le boulot est complètement pré-mâché, mais n'empêche que on sent la différence sur un même scénario entre un bon maître du jeu et quelqu'un qui fait que lire le bouquin. Donc il y a quand même le rôle du maître du jeu est quand même très très important. Ça permet de faire des parties assez courtes, on peut faire ce genre de choses assez rapidement. Sur le livre là de 12 scénarios, il y a quand même une grosse variété d'univers et de scénarios, une grosse variété de difficultés. Alors pareil, ils ont choisi dans un même bouquin de mettre, je sais plus si c'est avec toi qu'on en discutait sur l'épisode de Dunlock, non je crois pas, mais en gros ils ont décidé de mettre toutes les difficultés et tous les univers, ouais, en fait, dans un même bouquin. J'avais déjà, je crois que c'est dans l'interview de, je crois qu'ils ont parlé dans, à la radio des jeux en fait, quand ils ont interviewé Cyril Demag, pourquoi ils ont pas fait une boîte Unlock, tu vois, famille, une boîte Unlock expert avec que des scénarios simples ou que des scénarios beaucoup plus compliqués. Mmh. Et je sais plus ce qu'il avait répondu, mais qu'en gros ils préféraient avoir une progression dans la boîte. Donc là c'est pareil, en fait il y a une sorte de progression, il y a des scénarios plus simples au début qui peuvent se complexifier. Donc ça, avec une même boîte en fait tu peux aussi bien jouer, ou avec le même bouquin en l'occurrence pour Château Aventure, tu peux aussi bien jouer avec avec ta famille et puis le week-end ou le soir avec tes amis sur des scénarios plus complexes ou à la thématique un peu plus sombre quoi.
En fait, tu vois, autant pour Unlock ça me choque pas, autant effectivement j'aurais trouvé ça plus intéressant pour Château Aventure, parce qu'en fait il y a vraiment des scénarios qui sont assez simples et que tu te dis, enfin moi je sais que j'ai vu et lu pas mal de retours de gens, enfin entendu et lu plutôt pas mal de retours de gens qui disaient qu'ils avaient trouvé ça sympa avec leurs enfants, mais je pense que les trucs difficiles typiquement ils sont pas jouables avec des enfants.
Non, ouais.
Et du coup il doit être un peu frustré au final de se dire sur mon bouquin je peux jouer que 3 scénarios avec mes gosses. Et les autres si mon groupe d'amis accroche pas je les jouerai pas quoi, parce que quand même le jeu moi je le trouve aussi super original, moi j'aime bien, j'ai vraiment kiffé mes parties, je trouve ça vraiment chouette, mais ça plaît vraiment pas à tout le monde quoi.
Je comprends.
Il y a vraiment des gens qui sont qui ont une réaction épidermique au truc quoi, au principe, et qui trouvent pas ça intéressant, soit parce que c'est des gens qui sont issus du milieu du jeu de rôle et du coup ils trouvent que c'est trop fade, soit il y a plein de choses qui peuvent faire qu'on n'aime pas. Et du coup je pense qu'on aurait ça aurait peut-être été malin de leur part justement de prévoir des vraies gammes dans chaque
fonction des difficultés et des âges
ouais.
Après là je
c'est un choix
c'est un choix. Je pense que c'était pour l'instant peut-être au niveau de la matière aussi en nombre de scénarios c'était un petit peu compliqué de sortir des mini livrets avec 3 scénarios à chaque fois, ils ont préféré sortir 12 scénarios d'un coup. Mais effectivement, oui, trier ça par gamme, ça se justifierait tout à fait.
On s'est renseigné aussi sur Château Aventure. Donc il y a un deuxième tome qui est en préparation,
oui,
visiblement.
Qui devrait sortir l'année prochaine. Ouais.
Avec une date assez vague. Mais bon, a priori, il viserait le début d'année, mais bon, sûrement 4.
Oui,
quoi.
Ça me semble logique par rapport à la sortie du premier. Voilà.
A priori, je sais pas, ils nous ont pas parlé de gamme, j'avoue que j'avais pas la question en tête, mais sinon on l'aurait posé. Ça aurait été intéressant de savoir ça. À mon avis, ils vont partir sur le même genre de principe, quoi. C'est vrai qu'après, tu peux pas non plus demander à 10 auteurs de faire un truc simple et puis à 10 autres de faire un truc complexe, toi. Enfin, faut gérer aussi tout ça, quoi.
Je sais pas comment ils ont procédé, mais je pense pas qu'ils ont dit aux auteurs faites un scénario simple ou faites un scénario compliqué. Je pense qu'ils leur ont demandé de faire un scénario et qu'ils ont classé après en fonction de
difficulté
ressentie, quoi.
Ils ont peut-être cherché à simplifier certains scénars et peut-être complexifier d'autres, quoi, pour essayer peut-être de rééquilibrer un peu dans la boîte, mais. C'est même pas sûr. Il y a combien de chaque j'ai pas ma boîte sous les yeux, je sais pas.
Combien de chaque quoi?
De chaque scénario dans les différentes difficultés.
5 faciles, 4 moyens et 3 difficiles. Donc la répartition est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'ils ont plutôt mis plus de faciles que de difficiles, quoi, pour éviter une trop grosse frustration.
Parlons-en de la frustration,
ouais.
D'ailleurs, tiens.
Parlons de la frustration.
Parce que je trouve, effectivement, c'est le genre de jeu qui peut provoquer des grosses frustrations. C'est aussi une des critiques qu'on retrouve souvent. Les gens qui disent, en fait, en gros, ils ont une sensation de tourner en rond. Parce qu'en fait, en gros, ils se prennent tout le temps des commandes incorrectes.
Oui.
Et il y avait ce qui est intéressant, c'est que c'est une critique qu'on pouvait retrouver. Enfin, c'est une critique qu'on retrouve aujourd'hui sur ces jeux textuels. Où les gens disaient, c'était un peu relou, mais il y a un côté nostalgique là-dedans, c'était un peu relou, on tapait des commandes, ça marchait pas,
parce que
c'était pas la bonne orthographe, ou des fois il y avait une erreur de frappe dans le truc, donc il fallait reproduire l'erreur de frappe, enfin tu vois, des trucs complètement absurdes.
Oui, et puis il y a des gens qui abandonnaient, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui allaient jamais au bout des scénarios parce que parce que c'était chiant ou parce que c'était trop compliqué, parce qu'ils trouvaient pas la solution.
Et ça, c'est quand même amusant parce qu'ils ont reproduit ce côté-là. Alors que aujourd'hui, on se dirait, putain, mais enfin, tu partirais d'un jeu de zéro, tu ferais, non, il faut pas qu'il y ait ce niveau de frustration qui soit trop haut, tu vois, ou, mais là, ils l'ont intégré parce que ça fait partie de la nostalgie du jeu, tu vois, cette commande incorrecte, tu vois, qui tombe comme ça et qui te sans arrêt.
Je sais pas s'ils l'ont intégré parce que ça fait partie de la nostalgie du jeu ou parce que bah c'est compliqué de contourner ça en fait.
Faire autrement
dans le concept de Château Aventure, c'est compliqué de contourner ça. C'est là où moi j'aurais une petite critique aussi, c'est que bah ça il y a deux manières de le contourner. Soit t'as vraiment un maître du jeu qui a l'habitude, qui connaît bien le scénario ou qui est doué ou tout ce que tu veux, qui va justement amener d'autres choses, amener au moins des réponses un peu humoristiques ou qui va par ses réponses orienter un petit peu les joueurs quand ils sont vraiment paumés.
Ouais, parce que c'est pas très compliqué, petit conseil au maître de jeu, mais c'est pas très compliqué quand les joueurs font trois fois des allers-retours dans un endroit qui sert plus à rien, un truc comme ça, de leur sortir une vanne du style ça fait trois fois que vous passez par là.
Ouais, c'est ça.
Des trucs comme ça qui casse un peu le côté un peu rengaine.
Ouais, tout à fait.
Commande incorrecte.
Mais c'est là où moi j'ai aussi une petite critique sur l'édition, parce que faut quand même se rendre compte que le jeu, bah, il va pas s'adresser à des maîtres du jeu expérimentés, donc forcément les joueurs au départ, en tout cas, et sur les deux trois premières fois qu'ils vont jouer un scénario, vont le jouer très très mécaniquement, enfin très justement la rengaine de commande inconnue. C'est là où je pense qu'il y a pas mal de cas. Alors ça aurait fait un bouquin sûrement un peu plus gros effectivement, mais il y a pas mal de cas qui sont un peu évidents. Les joueurs vont essayer, qui sont pas forcément décrits dans le bouquin, et où ils auraient pu prévoir des réponses ou des choses un peu plus, ils auraient pu aller un petit peu plus loin dans la rédaction et dans les cas de figure, pour justement
et pour donner des idées,
voilà, pour donner un peu des idées au maître du jeu et pour justement un peu éviter ce côté très commande inconnue systématique. Et là, je pense que des fois il y a des choses un peu light dans les scénarios, que ce soit au niveau des réponses de l'ordinateur, ou que ce soit des fois même de la mise en page ou de la compréhension, même pour le maître du jeu, des fois il y a des choses en italique, il y a des choses en encadré. Le maître du jeu, s'il connaît pas parfaitement son scénario et ce qui doit se passer, quand il découvre un petit peu le scénario, des fois l'ordinateur peut laguer, quoi. Il peut bugger un petit peu quelques minutes pour attendez, je regarde ce qui se passe quand vous faites ça, ou il faut que je trouve un truc, est-ce que le cas de figure est possible ou pas. Donc globalement, je pense que au niveau de l'édition et au niveau des scénarios, finalement, en fait, ils tiennent sur très peu de pages, les scénarios, hein. Il y en a même qui tiennent sur 3 ou 4 pages. Y compris le plan, quoi. Ça aurait mérité, je pense, surtout sur les premiers, les plus faciles peut-être, pour vraiment accrocher les gens et éviter ça, d'être un petit peu plus étoffé.
Personnellement, moi, je conseille vraiment aux maîtres de jeu de pas se lancer comme ça à l'aveugle.
Ouais, il faut vraiment bien lire le scénario avant.
Il faut l'avoir lu, il faut prendre 10 minutes. Ça prend pas très longtemps, hein. Tu prends 10 minutes, un quart d'heure, tranquille, ce qui est pas toujours évident.
Si tu veux jouer sur le moment.
Tu reçois des gens, voilà, où t'es en train de jouer, voilà. Mais il faut vraiment se prendre 10 minutes, un quart d'heure, c'est rien par rapport à un jeu de rôle traditionnel, où tu vas lire le scénar une fois, deux fois, trois fois. Et puis ça va permettre de faire en sorte que ta partie elle soit beaucoup plus fluide et plus intéressante pour les autres joueurs. Et comme ça, ils reviendront jouer les autres scénars.
C'est ça. Après, sur l'interaction entre les joueurs, il y a plusieurs... alors, je sais plus si c'est écrit clairement dans les règles, mais voilà, il y a aussi plusieurs moyens de le faire jouer. Est-ce que tu autorises la discussion entre les joueurs pour savoir quoi faire? Et chaque joueur annonce une commande à tour de rôle, mais entre-temps, ils peuvent discuter entre eux. Est-ce que tu les autorises à prendre des notes ou à dessiner un plan? Moi, en fonction du groupe de joueurs et en fonction de comment je sens pour pas non plus trop les frustrer sur les premières parties, je peux m'arriver d'autoriser à ce qu'ils dessinent le plan, à ce qu'ils parlent entre eux, etc., quoi. Donc,
c'est là qu'on retrouve la souplesse du jeu de rôle,
oui,
finalement.
Tout à fait.
Tu peux ajuster, quoi.
C'est pas figé. Ouais, effectivement, c'est le maître du jeu
en fonction déjà que t'es en face de toi. Tout comme les commandes, hein, t'es pas obligé non plus d'avoir des commandes qui soient pile poil les bonnes commandes. Voilà. Après, l'idée, c'est de respecter un petit peu le canon finalement le canon du jeu qui est c'est le rôle textuel et qui demande du coup des phrases ultra simples du style inspecter lit et pas j'inspecte le lit en soulevant le drap quoi. Bon,
c'est pareil, c'est là aussi où il y a ce qui est écrit la commande acceptée qui est écrit dans le scénario. Et
est-ce que toi t'acceptes,
en tant que maître du jeu pour pas rendre le truc pénible quoi. Si c'est inspecter lit et qu'ils disent fouiller lit, bon ben tu vois faut pas
ça
non
va.
Plus faut pas non plus être trop rigide sur tout ça parce que c'est là où justement c'était très pénible à l'époque sur les jeux de rôle textuel PC parce qu'il fallait taper pile poil la bonne commande. Là pour rendre ça justement un peu moins pénible, faut que le MJ soit plus ou moins souple en fonction des cas quoi.
Faut que le MJ soit moins pénible que l'ordinateur.
C'est ça. Moins pénible et plus drôle quoi. Même s'il y en avait des très drôles je crois des jeux de rôle comme ça.
Et il paraît j'ai jamais joué à ces jeux-là. J'ai fait un peu de point and click.
Voilà, mais quand tu vois comme les point and click pouvaient être drôles, je pense que ça devait déjà être le cas sur les jeux textuels. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Vous l'aurez compris, je pense qu'on aime tous les deux beaucoup ce concept, même si on n'a pas fait encore tous les scénarios.
Non, j'en ai fait moins que toi. Est-ce que tu as vu dans les scénarios que tu as pu aborder ou ceux que tu as pu lire, est-ce que tu sens que des auteurs ont essayé d'explorer un peu les limites du truc? Typiquement, il y a un scénario avec les cartes, tu l'as joué?
Ouais, non, je ne l'ai pas joué, mais j'ai lu un peu en quoi ça consistait. Alors, les limites...
Il y a un vrai twist dessus, par exemple?
Ouais, il y a un twist qui est assez intéressant, parce que pareil, ces cartes, en fait, je ne vais pas trop spoiler non plus, mais les joueurs ne les voient pas, en fait. C'est un élément que va avoir que le maître du jeu. Et en fait, alors, je ne sais pas s'ils ont essayé d'atteindre les limites, mais... Ce qu'on sent sur les scénarios originaux, des scénarios qu'on t'a rajoutés en fait à Château d'Aventure, c'est qu'il y a à chaque fois soit une petite idée mécanique en plus, soit un twist sur le scénario. C'est assez varié. Sans trop spoiler, celui qui est plutôt sur Retour vers le futur, les joueurs vont pas se déplacer de lieu en lieu, ils vont rester dans le même lieu, mais ils vont se déplacer dans le temps.
On imagine, du coup.
Il y a celui plus film d'horreur là en fait où les joueurs vont avoir un nombre d'actions limitées. C'est-à-dire que ils doivent faire quelque chose, mais à chaque action, c'est comme si une minute se passait et ils vont avoir 60 minutes en gros pour régler le scénario. Donc il y a c'est une sorte d'escape game. Mais c'est ça, il y a comme ça dans chaque scénario original, en tout cas chaque scénario qui a été rajouté, il y a je pense qu'il y a eu cette recherche d'amener quelque chose en plus ou d'amener un petit twist. Et je pense que y a moyen de faire beaucoup beaucoup de choses, beaucoup beaucoup de twists, beaucoup de choses intéressantes. C'est comme je reviens encore à ce que disait Cyril Demac dans l'interview de la radio des jeux, où il disait que lui il avait eu l'idée de Unlock et qu'il disait que maintenant à chaque fois qu'il sortait une boîte il cherchait à avoir quelque chose. Il laisse faire d'autres, il cherchait à avoir un twist et il a vu des scénarios auxquels il s'attendait, enfin des twists sur sa mécanique auxquels il s'attendait absolument pas. Et je pense que là c'est le même cas, même genre de concept où un auteur peut faire des scénarios avec des twists ou des mécaniques complètement innovantes sur un même principe de jeu quoi. Mais en tout cas sur les scénarios même sur ceux que j'ai pas fait en feuilletant un petit peu, il y a à chaque fois la volonté d'amener une petite chose en plus ou d'amener un petit concept différent.
Et toi, tu joues plutôt avec des amis, en famille
Alors, j'ai pas joué en famille, j'ai joué pas mal, en fait, j'ai joué pas mal à deux endroits différents, au boulot déjà, puisqu'on fait des midi-jeux une fois par semaine, donc ça marche très bien au boulot avec les collègues. Alors, eux, ils sont plus du genre, on parle entre nous, on donne des commandes, à tire-larigot, peu importe l'ordre, et voilà, faut pas être trop rigide avec eux, je pense.
C'est anarchique.
C'est un peu plus anarchique, mais bon, ils prennent du plaisir et moi je me marre bien, donc c'est l'essentiel parce que ils sont du genre à faire des trucs complètement improbables, à s'engueuler les uns les autres parce que il y en a un qui a dit une commande, ça devait pas être ça. Enfin, c'est assez drôle.
Ah, c'est tout qui arrive souvent. Ouais, ouais. Le fameux boulet autour de la table qui.
Donc ça, c'est assez drôle.
J'ai pas compris ce qu'il fallait
et
faire.
Et après, j'ai joué quand même pas mal de scénarios aussi, dans mon assaut. Et donc là pour le coup, il y a même, des joueurs de jeux de rôle qui ont vraiment apprécié ça, quoi. On a un gros joueur de jeux de rôle qui vient et pour le coup j'ai toujours fait maître du jeu, il y a joué en tant que joueur alors que lui est plutôt maître du jeu d'habitude sur du jeu de rôle classique et il s'est vraiment il a trouvé ça vraiment cool quoi, il s'est vraiment éclaté, il s'est dit c'est con comme principe mais c'est génial quoi, tu peux faire un truc comme ça très court sur une soirée avec des amis, c'est beaucoup moins contraignant en fait, même s'il existe des scénars de jeux de rôle qui peuvent tenir sur une soirée, mais c'est rarement sous l'heure de jeu quoi, donc il a trouvé ça vraiment très intéressant et voilà. Okay, donc profil plutôt très très casual au bureau et un petit peu plus gamer sur les soirées asso quoi.
Là, je pense qu'au final ça couvre un spectre de joueurs quand même assez large.
Très très large
après
pense.
C'est vraiment question d'adhérer au concept ou pas, et là c'est vrai que c'est difficile parce que comme c'est vraiment un only, c'est vraiment difficile d'aiguiller les gens et de dire ça va te plaire parce que t'aimes tel jeu, toi tu vas aimer ça.
Ouais, tout à fait.
Là c'est
faut essayer je pense pour savoir faut essayer et puis
et d'ailleurs très bonne
transition
pour essayer, il y a un scénario en print and play
tout à fait.
Alors qui du coup il est pas super compliqué, hein, il est pas voilà. Malgré tout d'ailleurs, enfin je dis il est pas super compliqué, mais il y a quand même un truc dedans
qui paraît pas super
logique.
En fait ça manque d'indices. Si le maître du jeu donne pas des indices, il y a un truc qui est un peu tordu.
En fait quand tu le relis en tant que maître de jeu, tu fais parce que enfin moi je l'ai fait jouer ce scénario en l'ayant joué, tu vois. Et ben malgré tout j'ai quand même pas réussi à donner l'indice qu'il fallait pour que les gens trouvent, parce que quand j'ai lu le truc je fais c'est bon en fait. Et après, quand tu te replaces côté joueur, tu fais maintenant en fait.
Quand tu l'as joué la première fois, c'était à Cannes où j'ai essayé de faire le maître du jeu, et donc où je découvrais le scénario sur le vif. Et même les animateurs en fait sur le stand du Hilo me disaient là il faut deux éléments, mais s'ils en utilisent qu'un seul, tu leur dis ok, ça marche parce que le deuxième est vraiment un peu compliqué à récupérer quoi. Ouais.
Donc vous pouvez aller l'essayer, on vous mettra le lien vers le print and play.
Tout à fait. Qui est un 13e scénario du coup inédit, un peu plus court que ceux qui y a dans le bouquin.
Donc Château Aventure, en tout cas, on vous recommande, je crois, tous les deux,
au moins d'essayer. Pas forcément de l'acheter tout de suite, mais d'essayer
si vous adhérez au concept.
Avis,
après, si ça vous plaît, c'est clair que en tout cas 25€, ça fait à peu près 2€ le scénar, donc
oui,
c'est pas très cher.
Non, c'est carrément rentable.
À 2€ la soirée, ça va.
Surtout qu'au contrairement à un Unlock, vous allez pouvoir les rejouer. C'est-à-dire que même si vous allez jouer en tant que joueur, vous allez pouvoir les jouer en tant que maître du jeu, faire découvrir à d'autres gens, etc. Parce que typiquement, Unlock, c'est un des jeux aussi que j'emmène au bureau. Et moi, j'ai déjà fait les scénarios, du coup, je regarde mes collègues jouer. Ça m'amuse toujours de voir un peu comment ils s'en sortent.
Comment ils galèrent.
Et moi, je peux pas participer puisque j'ai déjà fait le scénario. Là, j'ai déjà fait le scénario, je connais déjà le scénario. C'est moi qui vais les faire jouer et je vais participer. Et ça va me faire encore plus marrer d'avoir cette interaction avec eux dans le rôle du maître du jeu. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Château Aventure, du coup, c'est un livre édité par Yellow, un livre avec des scénarios dedans, sur un concept de Jared A. Sorensen, avec plein d'autres auteurs qui ont fait des scénarios originaux, plein d'illustrateurs aussi qui ont illustré chacun un des scénarios. C'est disponible chez Philibert quand ce sera réapprovisionné pour la modique somme de 25€. C'est de 2 à pratiquement nombre infini de joueurs, même si c'est conseillé plutôt de 2 à 10 joueurs, à partir de 10 ans pour des parties de 30 minutes à 1 heure.
Et c'est plutôt respecté, effectivement.
Et c'est plutôt respecté, général, ouais, généralement ça dépasse
moi,
pas.
Moi, les parties que j'ai faites, je sais pas les scénarios les plus compliqués.
Moi, j'ai pas fait j'ai pas du tout joué aux 3 plus difficiles. J'ai fait pratiquement tous les scénarios simples et j'ai dû faire un scénario moyen. Et effectivement, sur du scénario moyen, ça augmente un petit peu la durée de partie parce que les gens tournent un peu plus.
C'est logique. Puis plus t'es nombreux aussi, peut-être plus il y a moyen que
ça dure,
ce soit long, parce que tu peux avoir des retours arrière.
C'est ça. Non, ça me plaît pas ce que t'as fait, moi je reviens là-bas.
C'est ça, des fois il n'y a pas qu'un boulet. À la Et le boulet il peut tourner aussi.
C'est vrai.
Voilà. Très bien, écoute, merci beaucoup pour ta chronique.
Merci à toi aussi.
Et ben, il nous reste encore une chronique à faire pour la fin de l'année. Je sais pas si ça se fera sous la forme traditionnelle ou s'il y aura un retour de PEL, parce que moi je ne serai pas à PEL cette année.
D'accord. Ouais, on pourra.
Donc, on verra un peu comment ça va s'organiser. Et puis bon, dans tous les cas, on peut quand même vous dire au mois prochain.
Ouais.
On verra bien. Et puis d'ici là, jouez bien.
Et il y a un dernier scénario qui est vraiment, c'est le seul d'ailleurs qui est indiqué interdit aux moins de 18 ans, plus film d'horreur en fait, limite un peu à la
Ah merde,
à la
je pensais que c'était un peu sexuel.
Non, c'est,
ah merde,
c'est plutôt...
déçu.
Il est pas sorti celui-là encore. Il est pas sorti. Alors, je regarde ça tout de suite. Ah putain, c'est pas marqué sur le sommaire, donc je vais devoir feuilleter un petit peu.